Chapitre 17. Gina, 16 juillet 2018. Le voyage a été épique hier. Nous étions en vol tandis qu'avait lieu sur la terre ferme la finale de la Coupe du monde de football. Imaginez un Airbus rempli de Français, dont certains avec l'option Internet en l'air ou quelque chose du genre, et les autres pas, donc des tas de gens qui se lèvent à tout bout de champ pour revoir une action sur le téléphone d'un voisin. Ajoutez à ça un équipage survolté et un commandant annonçant le score avec des sanglots dans la voix. Vous obtenez un vol transatlantique loufoque et joyeux, avec cris de ralliement patriotique et champagne offert par le personnel de bord à la fin. J'ai toujours aimé le football, le mélange des populations qu'il déclenche, la ferveur populaire que lui seul peut susciter. J'étais ravie de toute cette agitation autour de moi, et je n'étais pas la dernière à encourager mon petit Lloris. C'est mon préféré, celui-là. La contrepartie de l'ambiance festive, c'était l'impossibilité de se reposer. Il y avait de jeunes enfants à bord, alors une heure après la fin du match, les hôtesses et stewards ont fait revenir le calme. Mais une certaine fébrilité subsistait et il ne restait plus que 2 heures de vol. C'était foutu pour dormir. De toute façon, je n'arrêtais pas de penser à ce qui était prévu à New York, j'étais tendue. Puis je suis montée dans un taxi et la magie a opéré. Il était 21 heures, le soleil se couchait, laissant place aux lumières. À mesure que nous approchions de Manhattan, l'incroyable alignement de gratte-ciel devenait plus impressionnant. Je me suis sentie toute petite face à l'immensité. Et soudain, j'ai été gagnée par l'émotion. Je me suis revue sur le pont de notre lourd paquebot en 1938. J'avais 5 ans. Mon père et moi découvrions cette ville monumentale dans laquelle nous allions prendre un nouveau départ, dans laquelle nous serions heureux, si Dieu le veut bien. Dieu, je ne sais pas, mais New York n'a pas voulu. New York a avalé ma mère, mon frère, nos rêves, nos lendemains. J'ai chassé les images qui affleuraient, essayant de me concentrer sur la beauté de cette géante qui cette fois-ci m'ouvrait ses portes. J'ai convoqué toutes ces comédies musicales, tous ces films si souvent visionnés, les yeux remplis de convoitise. Mon esprit s'est allégé. J'ai profité du spectacle et fredonné pour moi-même ce refrain lancinant « I wanna be a part of it, New York, New York. » New York, me voici. Je me suis réveillée ce matin dans un état d'excitation extrême. Il faut dire que j'ai dormi comme un bébé, dans cette confortable guest house située en plein cœur de Greenwich Village. Mes hôtes sont adorables. Ils me parlent du match de la veille dans un français exalté et sont aux petits soins avec moi. Leur excès d'attention est sûrement lié à mon grand âge. Ils n'ont sans doute pas l'habitude de jouer les EHPAD, mais ils ont l'air ravis. J'adore le lieu et sa décoration rétro-chic. Il y a une âme dans cette baraque, je m'y sens bien. Je me suis prise en photo sur ce fauteuil d'une originalité folle qui trône dans ma chambre et que l'on dirait tout droit sorti de Breakfast at Tiffany's. Taillé dans une baignoire en fonte émaillée et recouvert de coussins rouges, il suffit de s'asseoir dedans pour se transformer en star de cinéma. J'ai envoyé la photo à Adrien, qui s'est plus extasié sur ma capacité à envoyer un MMS que sur l'image elle-même. Je n'ai pas demandé ce que c'était que cette histoire de MMS. J'ai senti que c'était encore une de mes lacunes. Alors, je l'ai juste remercié, et j'ai songé que j'aimerais lui faire un joli cadeau à lui aussi, un de ces jours. Si je ne suis pas morte entre-temps, bien sûr. J'essaie de ne plus trop penser à cette prédiction de Madame Salomé, mais je n'y peux rien, c'est comme ça. C'est pas maintenant qu'on va me changer. Quoique, c'est incroyable ce qui évolue en moi ces derniers temps. Toute cette aventure, ces voyages, ces rencontres, ces discussions, ces souvenirs que j'apprivoise tantôt dans la douleur, tantôt dans la jubilation, c'est si riche, si dense que j'en deviens plus légère, étrangement. J'ai le sentiment de laisser sur le bord de la route des angoisses, des regrets, des hontes, des diktats. Et Dieu que c'est bon! Je me rends compte que le chemin que j'ai entrepris n'est pas seulement un chemin de gratitude, c'est un chemin de liberté. comme si je m'autorisais enfin à exprimer ce que je ressens, ce que je suis. Il était temps. J'ai 85 ans, et c'est seulement aujourd'hui que je prends conscience qu'assumer ses choix, ses envies, ses failles, son destin, tout cela rend plus heureux. Il reste encore des entraves, bien sûr. Je n'ai pas tout réglé, je n'ai pas encore tout dit. Mais je connais l'itinéraire, et je suis prête à aller au bout. Je sors dans la rue, sans craindre la chaleur estivale de New York. Je suis munie d'un chapeau à large bord, d'un éventail, d'un petit spray pour m'asperger de temps en temps. Et puis, révolution, j'ai désormais les jambes nues. Comment ai-je pu attendre aussi longtemps pour découvrir la sensation merveilleuse de l'air chatouillant mes mollets? Il ne me faut qu'un petit quart d'heure de marche pour parvenir à l'agence de Luther Hendricks, mon détective privé. Ça fait bizarre de dire ça comme ça. Mon détective privé. J'ai l'impression d'être dans ce film d'Hitchcock avec James Stewart et Grace Kelly où un pauvre gars plâtré espionne ses voisins. Le décor que je traverse n'y est pas étranger. Greenwich Village est un quartier particulier de New York, à l'avant-garde de l'art, de la mode, des luttes. Nino rêvait de le découvrir. Il n'a pas pu. Nous n'avions pas les moyens. Je pense à lui ce matin. En déambulant entre les artistes de rue et autres joueurs d'échecs de l'emblématique Washington Square Park, déjà très animé. Je sais que c'est d'ici que sont parties de nombreuses manifestations historiques, comme la première Gay Pride. On dit le lieu bohème. Je pense que c'est un lieu de liberté. Pour moi qui crois aux symboles et aux signes, être ici aujourd'hui en est un. Quel plaisir de déambuler dans ces artères bordées de brownstones, ces maisons de grès rouge typiquement new-yorkaises collées les unes aux autres. Il m'est impossible de prononcer leur nom. Brustow, Brownstone. Mais je suis une grande fan de leur architecture, notamment des escaliers extérieurs permettant d'accéder à la porte d'entrée. J'aimerais me prendre en photo ici, mais je n'ose pas. Et puis, si, j'ose. Je demande en langue des signes à deux jeunes filles qui passent par là. Je pose avec un grand sourire niais et le tour est joué. Je ne vois pas le temps filer et mitraille avec mon téléphone tout ce qui me semble digne d'intérêt. Heureusement qu'il ne faut plus changer la pellicule de ces appareils, sinon j'y perdrai des heures. C'est donc un peu essoufflée, en retard et suante que je débarque chez le détective. On me fait patienter dans une pièce qui ressemble à s'y méprendre à une salle d'attente de médecin. Je fais semblant de regarder les photos prises sur le chemin, mais c'est pour me donner une contenance, éviter de penser à tout ce qui m'attend. Une gentille fausse blonde un peu dodue me demande de la suivre jusqu'au bureau de Luther Hendricks. Il vient à ma rencontre, me serre la main en souriant, me demande dans un français impeccable si mon voyage s'est bien passé. Je lui réponds tout en l'observant. Je ne l'imaginais pas du tout comme ça. Je veux dire, je ne savais pas qu'il était noir. En même temps, comment aurais-je pu savoir? Il est très séduisant dans son costume gris. Comme à mon habitude, je pense qu'il pourrait plaire à ma Chloé. À l'instant même où je formule cette pensée, je crois entendre sa voix. Je secoue la tête, me dis qu'il faut décidément que j'aille voir un audioprothésiste. Jusqu'à ce que mon joli détective me fasse entrer dans son bureau. Je sursaute, pousse un cri, manque de tomber, me raccroche au bras de Luther Hendricks. Devant moi, Olga et Chloé, d'abord amusées par ma réaction, puis inquiètes que je ne fasse un infarctus. « Qu'est-ce que vous fichez ici ?»« Pardon, mais c'est la première chose qui me vient à l'esprit. Elles m'ont flanqué une de ces trouilles, ces deux-là. » Ah bah cache ta joie, ça te fait plaisir de nous voir apparemment. Tu pars à l'autre bout du monde sans rien laisser d'autre qu'un micro-message sur un bout de papier et tu nous demandes ce qu'on fiche ici. On s'est fait un sang d'encre, on a cru que t'avais perdu les pédales, que t'avais claqué du cigare, vrillé de la margoulette. Je crois qu'on a compris l'idée, Olga. C'est ma Chloé qui l'a interrompue. Moi je n'aurais pas osé, parce qu'au fond je sais qu'elle a raison. Alors je baisse les yeux et ne dis rien. Comme une enfant prise en faute. Chloé s'approche, me prend dans ses bras. C'est doux, ça m'a manqué. Tu nous as fait tellement peur. C'est ce qu'Olga essaie de dire avec ses mots. Voilà, c'est ça.
C'est ce que j'essaie de te dire. Et puis aussi, qu'on est bien contente que tu sois en un seul morceau, ma vieille Gina.
Olga s'approche, me prend dans ses bras à son tour. C'est anguleux. Ça m'a manqué aussi. Je suis heureuse de constater que Chloé a l'air de tenir le coup. Je n'avais aucun doute. Je savais qu'elle finirait par se relever. Mais elle me semble déjà nettement plus vivante qu'il y a quelques jours. Peut-être l'air de New York lui fait-il du bien. Si ce périple a pour effet secondaire de la sortir du gouffre dans lequel elle est tombée, j'en suis d'autant plus ravie. Luther Hendricks s'éclaircit la gorge, nous offre un café, un thé, des rafraîchissements. Il nous indique deux canapés dans lesquels nous nous enfonçons et aussi que nous pouvons rester ici le temps qu'il faudra. Si par hasard vous souhaitiez donner quelques explications, chère Gina, 12 euphémismes pour dire qu'il va falloir que je passe à table pour raconter tout ça, maintenant. Le détective m'indique pouvoir nous laisser seuls si je préfère. Je lui réponds que ça ne sera pas nécessaire. J'ai décidé de ne plus rien cacher désormais. En revanche, cela risque de prendre un certain temps. Résumer mes décisions et aventures récentes revient peu ou prou à retracer la totalité de ma vie.